Radio Okapi.
Le journal. À la présentation, Noéla Luzitou Kabambi.
Au moins 33 personnes ont été tuées par des rebelles des ADF au cours d'une série d'attaques hier mercredi au Nord Kivu. Parmi ces civils tués, 22 l'ont été dans des villages du groupement de Batangimbao, territoire de Beni, et les autres dans le secteur de Bapéré, territoire de Lubero. Début hier soir de la publication des résultats de l'examen d'État, édition 2023-2024, ces résultats concernent pour la première phase 30 provinces éducationnelles. La liste des meilleurs lauréats des 5 provinces éducationnelles a également été rendue publique hier même. Le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et des Médias et l'invité de ce journal, Patrick Mouyaya, revient sur le séminaire gouvernemental organisé à l'intention des membres de l'exécutif national, séminaire qui s'est clôturé le mardi au Palais de la Nation ici à Kinshasa. Bonsoir à tous, mais d'abord cette nouvelle. Le premier président de la Cour des comptes demande aux députés de renforcer l'arsenal juridique de la première institution supérieure de contrôle des finances à RDC. Jimmy Munganga-Ngwaka l'a dit ce jeudi à l'occasion de la rentrée judiciaire de son institution au Palais du Peuple, en présence de la première ministre, des députés et des plusieurs personnalités politiques, judiciaires et des diplomates. Il a dénoncé la corruption et la fraude qui caractérisent la gestion de la chose publique. La Cour a également remis au chef des institutions publiques son rapport annuel exercice 2022-2023. Reportage Jeff Ngoy.
Le renforcement du pouvoir de contrôle de la Cour des comptes pour la promotion d'une gestion financière et budgétaire saine et responsable. C'est le thème du discours du premier président de la Cour. Pour renforcer ce pouvoir, Jimmy Munganga plaide auprès du législateur pour la réforme législative de 2018 afin que ce renforcement devienne réel et non un simple mythe. Il est incompréhensible, dit-il, que le comptable public qui exécute l'ordre du ministre et du gouverneur soit justiciable devant la Cour, alors que ces derniers donneurs d'ordre échappent à la juridiction de la dite cour pour répondre de leur faute de gestion. Selon le chef de cette juridiction, tout Congolais doit avoir un juge naturel en application de l'article 19 de la Constitution. Cependant, dénonce Munganga, les ministres, les gouverneurs et certains autres ordonnateurs politiques n'ont pas de juge à proprement parler en matière de faute de gestion, au nom des immunités et privilèges de juridiction. Ce qui consacre en réalité l'impunité pour les fautes de gestion par eux commises.
Toujours au cours de cette rentrée judiciaire de la Cour des comptes, le procureur général, près cette juridiction, a lu sa mercuriale axée sur le renforcement de la cohésion et la solidarité nationale. À cet effet, il a fait savoir à la première ministre que seule la Cour des comptes et l'institution supérieure de contrôle des finances publiques et de répression des fautes de gestion reconnues par la loi. Et son procureur est le seul maître de l'action publique en cette matière. Il n'y en a pas deux en RDC. Si vous l'apprenez dans une institution autre que la Cour, c'est que c'est suspect, a martelé Salomon Toudieché. Au moins 33 personnes ont encore été tuées par des rebelles des ADF dans les territoires de Beni et Lubero, au Nord Kivu, au cours d'une série d'attaques hier mercredi. Parmi les civils tués, 22 l'ont été dans des villages du groupement de Batangimbao, rapporte la société civile du territoire de Beni. D'autres attaques sont intervenues dans le secteur de Bapéré, territoire de Lubero, depuis les débuts de la semaine, indique le chef de secteur, Sadiq Aboubakar, pour les détails.
Le président de la société civile du territoire de Beni rapporte que 22 civils ont été exécutés par des ADF dans plusieurs villages de Batangimbao à la limite avec le territoire de Mambasa en Ituri. Omar Kalissia affirme qu'une quinzaine de corps sont déjà à la morgue de l'hôpital général de référence d'Oïtia, chef-lieu du territoire de Beni.
Et aujourd'hui, nous venons d'enregistrer 22 morts, mais la fouille n'est pas encore finie. Mabuo, c'est la partie qui a été plus attaquée. Il y a la partie qu'on appelle Beou. Il y a la partie qu'on appelle Makwakwa.
Dans le territoire de Lubero, 11 personnes ont également été tuées dans différentes attaques depuis lundi dans le secteur de Bapéré. C'est notamment dans les villages de Ombolé, Makopissé, Ngombe et Kengele. D'après Makère Sivikunula, chef de cette entité extra-coutumière, ce bilan est encore provisoire car les corps des victimes sont découverts progressivement. Il affirme cependant que des troupes des FRDC et UPDF sont déjà sous les traces de l'ennemi. Du côté du territoire de Beni, l'armée n'a pas encore réagi au sujet de ces attaques. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
En Ituri aussi, 8 corps sans vie ont été découverts hier mercredi à Ouessa, localité proche du centre commercial d'Otmaber, sur l'axe Komandaluna dans la chefferie de Walesevonkutu, au sud du territoire d'Irumu, ce qui porte à 15 le nombre des civils tués en une semaine, dont certains ont été décapités. Selon certains activistes des droits humains qui citent des rescapés, les victimes ont été prises en otage dimanche dernier par des ADF dans leur champ. Ils demandent aux forces conjointes FRDC armées ougandaises de traquer ces rebelles ougandais jusque dans leur retranchement. Et bien évidemment, toutes ces tueries entraînent les déplacements dans tous les sens des habitants de l'Ituri. Ils sont à ce jour près de 20 000 déplacés dans la cité de Mungwalu et sa périphérie. Ces personnes ont fui depuis environ 3 semaines les attaques des groupes armés, dont Kodeko et Zahir, dans les villages Abianda, Galai, Lodjo, Blaquette et Pluto. La coordination de la société civile Force Vive de l'Ituri s'inquiète de leur situation humanitaire de plus en plus préoccupante. Dans une déclaration à la presse ce jeudi, elle indique que ces personnes installées dans des familles d'accueil et les places publiques sont dépourvues de tout. Dieudonné Lossa lance un appel au gouvernement congolais et aux humanitaires pour une intervention urgente dans la zone où on enregistre déjà une dizaine de morts parmi ces sinistrés. Il demande également au gouvernement de réhabiliter le tronçon routier Igabarrière-Mungwalu pour faciliter l'acheminement de l'aide aux déplacés. Dieudonné Lossa est au micro de Martial Kizabiamungu.
Par rapport aux conditions infrahumaines dans lesquelles se trouvent les déplacés qui ont fui les hostilités des groupes armés Kodeko, miliciens autodéfense Zahir, depuis qu'ils ont fui, ils se sont installés à Mungwalu, ils n'ont pas à manger. Ils sont en train de couper dans la misère. La population de la commune rurale de Mungwalu se trouve dans cette situation où elles ne savent pas quoi donner et aider cette population déplacée. Nous invitons l'État congolais et toutes les organisations humanitaires à faire diligence pour intervenir en faveur de cette population. Nous passons également les travaux routiers qui se font entre Mungwalu et Gabarrière doivent aller rapidement et faciliter l'aide humanitaire à faveur de cette population qui souffre atrocement à ce moment.
De leur côté, les déplacés du Nord Kivu ne vivent guère mieux, notamment ceux des différents sites au nord de Goma, dans le territoire de Nyiragongo. Vivant à l'extérieur des agglomérations, ces familles manquent d'alternatives pour assurer ne fût-ce qu'un repas journalier à leurs enfants. Des femmes et des hommes rencontrés mardi par notre collègue dans les sites de Bujari et Nyakabanda, dans le groupement Kibati, ont affirmé vivre un calvaire dans ces sites, en plus des mauvaises conditions hygiéniques et d'hébergement. Suivez plutôt ce reportage de Sifamagour.
Manque de nourriture, accès difficile à l'eau potable ainsi qu'à d'autres services de base, la plupart de ces familles dorment presque à même le sol dans les petits abris usés par des intempéries, obligées de se rendre dans les champs aux abords du parc des Virunga pour se procurer du bois de chauffe ou de quoi manger. Ces femmes sont victimes de violences sexuelles de la part des hommes armés. L'une d'elles témoigne de la multiplicité des cas, même chez les enfants de 6, 8 ans et plus. Les femmes ont maintenant trop peur d'aller en brousse à cause des violences. Lorsqu'un homme en armes te trouve sur la route, automatiquement, il va faire tout ce qu'il veut sur toi. En outre, l'accès à l'eau potable est un casse-tête dans cette zone qui n'a pas d'adduction d'eau. À cela s'ajoute la psychose de l'insécurité causée par des tirs nocturnes récurrents dans la zone, explique ce jeune homme qui est membre du comité du site de Bujari.
Dans ce site, il y a un problème d'eau potable. La nourriture est insuffisante. La jeunesse de ce camp n'a pas d'occupation. S'il ne trouve pas de travail, il devient soldat.
Ces populations sont impatientes de rentrer dans leur terroir afin de s'occuper de leurs enfants qui sont sacrifiés dans les sites faute de la scolarité ou tout autre encadrement, disent-ils. Goma, Sifamagoro, Radio Kapi.
Dans la province du Tanganyika, la ville de Kalemi est en proie à une insécurité croissante ces derniers jours. Des malfrats munis d'armes à feu et d'armes blanches visitent régulièrement des maisons d'habitation dès la tombée de la nuit. D'après le mouvement citoyen Parlement debout sans tabou, en l'espace de 11 jours, une dizaine de cas de cambriolage sont enregistrés à Kalemi. Exaspérés, les habitants veulent se faire justice. Un jeune homme présumé voleur a été brûlé vif par la population en début de semaine au quartier Joseph dans la commune de Lukuga. Depuis Kalemi, Paula Munanga.
Le dernier cas en date s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi au quartier Kitoukou sur l'avenue Makutano. Des malfrats ont visité quelques maisons, rapportent des témoins. Dans l'une des maisons, ils ont emporté des biens de valeur et ont blessé à la machette les propriétaires au niveau de la tête. Des sources indiquent que c'est presque chaque nuit que des cas de cambriolage sont signalés. Cette semaine, il y a plusieurs cas de vol qui sont déplorés et 5 blessés, dont certains à la machette, rapporte le président du mouvement citoyen Parlement Debout Sans Tabou. Signalons un cas de justice populaire en début de la semaine au quartier Joseph dans la commune de Lukuga où un présumé voleur a été brûlé vif par la population. Face à ces regains du banditisme urbain, le président du mouvement citoyen Parlement Debout Sans Tabou demande aux autorités de la ville de Kalemie de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens. Kalemie, Pole Munanga, Radio Okapi.
Nous en parlions dans le sommaire, début hier mercredi, de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023-2024. Ces résultats concernent pour la première phase 30 provinces éducationnelles. La première série de publication des résultats des épreuves de l'examen d'État concerne 5 provinces éducationnelles et la liste des meilleurs lauréats de 5 provinces éducationnelles a également été rendue publique hier même. D'autres détails dans ce compte rendu de Plamedi Mbiavanga et Blaise Makassi.
Si l'on doit se référer au communiqué de l'inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Jacques Audia, les résultats des 30 provinces éducationnelles traitées sont disponibles et seront publiés au fur et à mesure. Les premiers résultats concernent uniquement les 5 provinces éducationnelles suivantes, Kinshasa Mwamba, Kinshasa Plateau, Congo Central 1, Équateur 1 et Kwilu 1. Et les taux de réussite dans ces provinces est de 60%. Dans ce même communiqué de presse, l'inspecteur général a aussi révélé les résultats des lauréats de ces 5 provinces éducationnelles concernées par cette première série des publications ainsi que leurs écoles respectives. La session ordinaire de l'examen d'État pour l'édition 2023-2024, faut-il le rappeler, a compté plus de 962 000 candidats inscrits dans 2800 centres sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et dans quelques écoles consulaires des pays limitrophes.
Les agences de l'ONU sont disposées à accompagner le gouvernement provincial de Kinshasa à relever les défis auxquels est confrontée la ville et à améliorer ainsi la vie des Kinois. C'est ce qui ressort de l'entretien hier à Kinshasa entre le gouverneur de la ville-province, Daniel Bumba, et Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC et coordonnateur des affaires humanitaires. D'après nos sources à l'hôtel de ville de Kinshasa, cette rencontre entre dans le cadre des consultations que mène l'autorité provinciale en vue de trouver des solutions efficaces aux difficultés qui rongent le quotidien des Kinois. Bruno Lemarquis revient sur l'essentiel de leur entretien dans cet extrait choisi par Babel Mpongo Masimango.
On a discuté de la manière dont le système des Nations Unies avec toutes ces agences pourrait collaborer sur certains dossiers, la question de la sécurité urbaine, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, du logement, la question des services sociaux de base, la gestion des risques et des désastres, puisque la ville de Kinshasa est très exposée aux aléas climatiques et on l'a bien vu avec les grosses inondations qu'il y a eu, les quartiers entiers ont été inondés, donc il faut que la ville se prépare mieux. On a discuté de la digitalisation, par exemple de l'état civil, les questions environnementales, la question de la pollution, la question de l'utilisation du makala à Kinshasa et du besoin d'avoir des sources alternatives d'énergie, puisque cette utilisation très forte du makala à Kinshasa a un impact sur la déforestation de toute la zone qui entoure Kinshasa. La question agricole, comment alimenter Kinshasa en produits agricoles, donc c'est le développement agricole, la ceinture verte autour de Kinshasa. Les discussions vont continuer entre la province, les agences des Nations Unies et puis également d'autres partenaires qui pourraient être intéressés à appuyer la province.
Restons à Kinshasa. La littérature financière de la RDC s'enrichit de 3 nouveaux ouvrages présentés officiellement au public ce jeudi. Des livres publiés par les inspecteurs de l'Inspection générale des finances IGF et présentés à l'occasion de la 2e journée scientifique de cette institution. Un de ces 3 ouvrages dénonce notamment les inégalités et la pauvreté en RDC, mais il propose aussi des solutions pour y remédier. Plus de détails avec vous, Donna Madimba.
Rédigé par l'inspecteur général des finances Bitassi Moi, sur base d'une enquête faite pendant plusieurs années dans toute la République démocratique du Congo, cet ouvrage établit qu'en RDC, il y a des inégalités excessives d'avoir entre populations. D'un côté, les très riches qui se recrutent parmi un tout petit nombre de Congolais, généralement des citadins et la classe politique. Ces très riches Congolais sont, selon le livre de l'inspecteur général Bitassi Moi, 11 fois plus riches que les pauvres. Les pauvres en RDC sont, eux, selon le même ouvrage, plus dans les provinces du pays. Beaucoup plus les femmes, les jeunes et les plus de 50 ans. Les raisons seraient la cupidité individuelle, mais également d'autres causes comme l'impôt mal organisé et certaines subventions de l'État qui lui privent de certains revenus qui pourraient servir à d'autres intérêts plus généraux comme les routes et les infrastructures. Cette enquête établit enfin, selon l'IGF Bitassi Moi, que la RDC à ce jour est le quatrième pays au monde le plus pauvre, les trois premiers étant le Sud-Soudan, le Burundi et la République centrafricaine.
Parlons sport. C'est demain, vendredi 26 juillet, que démarrent à Paris, en France, les 33e Jeux Olympiques, un rendez-vous sportif auquel une centaine de chefs d'État du monde, dont une dizaine du continent africain, vont prendre part. Dans l'esprit de la trêve olympique, le secrétaire général des Nations Unies appelle tout le monde à déposer les armes et à tendre vers l'objectif ultime, la paix pour tous. Jean Gandou.
Les Jeux Olympiques mobilisent plus de 10 000 athlètes masculins et féminins venus des quatre coins du monde. Pendant deux semaines, ils vont rivaliser de talent et se produiront dans 329 épreuves pour 47 disciplines et 32 sports qui se dérouleront dans 39 sites. Pour la circonstance, plus de 5000 médailles sont disponibilisées, dont l'or, l'argent et le bronze. D'après plusieurs médias français, la cérémonie d'ouverture se fera en présence d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement, dont une dizaine venant de l'Afrique. Cette réception sera l'occasion pour la France de délivrer un message de paix et de tolérance, affirme la même source. Pour ces Olympiades, le secrétaire général des Nations Unies a écrit, je cite, « Le monde s'est réuni à Paris pour célébrer le pouvoir du sport, pour apporter de l'espoir, pour transcender les cultures, unir les peuples, promouvoir le respect mutuel et le fair play. Ce sont également les idéaux des Nations Unies. Dans l'espoir de la trêve olympique, j'appelle tout le monde à déposer les armes, à bâtir de ponts, à encourager la solidarité et à tendre vers l'objectif ultime, la paix pour tous. Je souhaite donc plein succès aux athlètes olympiques et paralympiques. Vous nous inspirez à rêver plus grand. Puisse l'âme olympique éclairer le chemin vers un monde de paix et d'harmonie. » Fin de citation. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
À l'étranger, la coureuse sud-soudanaise Perinan Nakang va représenter l'équipe des réfugiés du Comité international olympique lors des Jeux olympiques de Paris. Réfugiée au Kenya depuis l'âge de 7 ans, la jeune femme aujourd'hui âgée de 21 ans participera à l'épreuve féminine du 800 mètres. Perinan Nakang a fui la guerre dans son pays natal, le Soudan du Sud, avec sa famille. Ils ont trouvé refuge dans le camp des réfugiés des Kukuma au Kenya. Elle espère améliorer son temps durant ces Jeux. De sa réussite aux Jeux de Paris, affirme-t-elle, dépend la scolarité de ses jeunes frères et sœurs et aussi l'amélioration de sa vie et de celle de sa famille. Notez qu'une équipe de réfugiés participe aux Jeux olympiques pour la troisième fois. Composée de 37 membres, elle représente environ 120 millions de personnes déplacées de force dans le monde.
L'invité.
Le séminaire gouvernemental organisé à l'intention des membres de l'exécutif national s'est clôturé le mardi au Palais de la Nation, ici à Kinshasa. Pour le président de la République, les enseignements tirés de ces travaux et rassemblés sous forme de pacte d'engagement citoyen doivent être appliqués au quotidien dans l'objectif d'obtenir des résultats. Pour en parler, nous recevons dans ce journal le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, s'entretient avec Blaise Shindani Kambala.
Messieurs les ministres, bonjour.
Bonjour, monsieur Chimène.
Vous avez participé aux travaux du séminaire gouvernemental. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces rendez-vous, surtout pour la population?
Écoutez, c'était un rendez-vous important après la sortie du gouvernement de la première ministre Judith Suminois. Parce que lorsque vous faites un séminaire de ce type-là, vous savez qu'il y a beaucoup, presque 60% du gouvernement a été renouvelé. Vous venez vous rappeler à suivre plutôt des notions sur, par exemple, la collaboration ou le fonctionnement du gouvernement. Vous êtes briefé sur un certain nombre de sujets, notamment sur comment fonctionne la diplomatie de manière générale, la sécurité, la situation générale du pays, mais aussi toutes les questions économiques, ANAPI, programme d'investissement, etc. Donc ici, ce que la population peut attendre, c'est de voir que ces ministres ont été pleinement outillés. Ces ministres, au terme de ces séminaires, se sont engagés à donner les meilleurs d'eux-mêmes pour être sûr que chaque jour, dans les cas de leur responsabilité, ils seront en mesure de donner leur meilleur d'eux-mêmes pour parvenir au résultat. Donc, ce séminaire est un séminaire qui était plutôt, je dirais pas de mise à niveau, mais c'est un séminaire d'outillage pour permettre aux membres du gouvernement de mieux comprendre le maillage dans lequel ils doivent fonctionner, de mieux maîtriser certains sujets qu'ils auraient pu entendre en étant un simple citoyen avant de venir au gouvernement, d'en avoir la maîtrise et de travailler de manière efficace aux côtés du président de la République et de la première ministre dans leurs secteurs respectifs pour apporter des résultats.
Le mot du président de la République à l'ouverture et à la clôture de ces séminaires ont été interpellateurs. Il a appelé les membres du gouvernement sous-minois à faire preuve d'une gouvernance efficace. Quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour répondre à cette attente?
Écoutez, les mécanismes ne se mettent pas en place autour du séminaire. Au séminaire, on vous rappelle les béabas et on trace les lignes directrices. Les mécanismes, nous sommes nous-mêmes membres du gouvernement, il y aura des lettres d'émission qui vont suivre. Nous préparerons un autre niveau de feuille de route pour nous assurer que, en fonction de ces actions qui nous sont destinées dans le cadre du programme d'action du gouvernement, nous donnons de notre meilleur pour apporter des résultats. Et ici, il faut compter sur la détermination renouvelée de chaque membre du gouvernement, de donner justement de son meilleur pour être sûr que nous quittons d'un point A pour aller vers un point B positif dans les cas de notre action en faveur du peuple congolais.
Chacun sera jugé à l'aune de sa compétence, de ses qualités professionnelles, mais aussi de sa bonne moralité. C'est cela la ligne directrice du gouvernement de la différence, a rappelé la première ministre. Comment se fera cette évaluation quand on sait que le président de la République avait, dans les temps, promis une évaluation du travail des gouverneurs, mais que cela n'avait jamais été fait?
Écoutez, je ne voudrais pas aller sur ce terrain-là, mais il faut considérer ici que nous avons une double pression. Le président de la République, dans ses premiers mots aux membres du gouvernement, avait justement parlé d'évaluation régulière. Vous savez que nous sommes dans un pays où tout est urgent et où on a besoin d'avoir des réponses rapides. Et donc, il y aura sûrement trimestriellement, dans les schémas convenus entre le président de la République et la première ministre, des évaluations régulières du membre du gouvernement. Ici, M. Shindan, il ne faut pas oublier que nous avons une Assemblée nationale et qu'il y aura aussi un aspect de contrôle parlementaire. Parallèlement à cela, vous savez, nous sommes un gouvernement, la première ministre a dit un gouvernement de différence et de changement. Nous allons nous assurer qu'en termes de redevabilité, qui est l'un de maîtres mots, que nous consolidons aussi les acquis de ce point de vue. Et donc, les ministres, membres du gouvernement, vont faire face à plusieurs types de pressions pour nous assurer que de manière régulière, le travail qui est fait est compris, pour que les Congolais comprennent aussi qu'en réalité, il n'y aura pas de baguette magique. En 3 mois, on peut pas s'attendre non plus, par exemple, à avoir des miracles, mais dans 3 mois, ça peut être suffisant pour pouvoir apprécier le premier pas qui sont faits par chaque membre du gouvernement en termes de maîtrise des questions de ce secteur, mais aussi en termes de grandes actions à poser pour s'assurer que dans un secteur A, nous avons donné les résultats tels que voulus par le peuple congolais.
Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au micro, c'était Noëlla Luzitu-Kabambi dans une mise en onde de Billy Landry-Betou. Je vous laisse en compagnie des programmes de Radio Okapi, le média de la paix.